chers auditeurs, un grand écrivain, un analyste subtil de la condition humaine, un juif ouvert au monde nous a quittés. C'est d'Albert Memmi que je veux parler, un penseur avec qui beaucoup de lecteurs, et moi notamment, entretenaient une relation à la fois intellectuelle et fraternelle. Pourquoi intellectuelle ? Parce que son œuvre profonde concerne notre identité universelle et particulière. Pourquoi fraternelle ? Parce que son écriture et sa pensée étaient chaleureuses et convergeaient vers un carrefour où peuvent se rencontrer l'Orient et l'Occident, ainsi que tous les hommes opprimés pris dans les contradictions de leur aliénation. Mais aujourd'hui, c'est le Memmi d'Orient qui nous intéresse, celui qui s'est penché sur le destin du peuple d'Israël et des Arabes de Palestine. Pour en parler, nous avons invité Annie Dayan Rosenman, qui a bien connu Albert Memmi et dialogué souvent avec lui. Annie Dayan Rosenman est universitaire, professeure de littérature française et de cinéma, c'est une militante de la paix et de la culture. Annie, vous êtes là, vous m'entendez ?
Bonjour, bonjour aussi.
Dans son essai, « L'homme dominé », que vous connaissez, et qui est paru en 1968, donc après la guerre des Six Jours, Albert Memmi écrit, je le cite, « Opprimés comme peuple, les Juifs ne seront ni réellement libérés qu'en tant que peuple. Or, aujourd'hui, la libération des peuples garde encore la physionomie nationale. » Albert Memmi était-il sioniste et jusqu'à quel point, Annie ?
Alors, il était sioniste, c'est certain. Vous avez cité l'une des phrases essentielles, c'est-à-dire que pour lui, l'État d'Israël est non seulement nécessaire, mais légitime, et c'est une réponse à la condition malheureuse du juif, en Orient comme en Occident. Mais ce qui est particulier à Memmi, c'est que ces solidarités ont toujours été des solidarités critiques. Si je fais un détour, par exemple, par la solidarité, disons, par une de ses positions les plus connues, celle qu'il exprime avec Portrait du colonisé, donc qui rend il montre à quel point la décolonisation est nécessaire, ça ne l'empêchera pas, juste après, justement, les décolonisations, de poser des questions sévères, embarrassantes, au pouvoir en place. Qu'en est-il de la démocratie ? Dans des pays qui se disent de confession musulmane, qu'en est-il de la laïcité, qu'en est-il du droit des minorités ? Eh bien, pour Israël, je dirais que c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un appui inébranlable d'Israël, mais en même temps, il refuse toute inconditionnalité. Je pourrais vous en donner quelques exemples. À un moment donné, vous vous souvenez peut-être qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle la question séfarade. Et des déclarations, voilà, et des déclarations de Golda Meir extrêmement brutales et peu, disons, peu attentives à la culture des séfarades. C'est un euphémisme. Eh bien, Albert Memmi est un de ceux qui très vite va écrire une tribune.
C'est-à-dire juifs orientaux, hein ?
Juifs orientaux, juifs marocains essentiellement, mais Memmi est un de ceux qui va écrire une tribune où il va répondre à ces descriptions en parlant de racisme culturel. Au niveau, il en est de même de la question des Palestiniens. C'est-à-dire, autant il est convaincu de la nécessité d'Israël et de sa sécurité, mais dès 1972, il se déclare convaincu de la nécessité de donner une réponse, dit-il, étatique à la question palestinienne.
Il est politique sur la manière de régir les rapports entre Israéliens et Palestiniens.
Il ne va pas rentrer dans les détails, il le dit, mais ce qui me semble extrêmement important, c'est que cette position, il ne va pas l'exprimer dans un colloque en France ou dans un journal parisien, il l'exprime en Israël devant les membres du Congrès sioniste à Jérusalem. Et 6 mois plus tard, il les reprend et il les développe dans une revue israélienne de langue française, donc où il, à la fois, il affirme son, je dirais, sa solidarité, mais aussi cette position très ferme. Et vous le savez, dans ces années-là, la question palestinienne déjà suscitait énormément de débats très violents. Je voudrais vous en donner un second exemple. C'est que, après avoir affirmé donc la nécessité d'une solution étatique, Memmi est un pourfendeur de mythes. Et en ces années-là, dans les années 70, se met en place le mythe d'une coexistence idyllique entre les Juifs et les musulmans en terre d'islam. Et c'est à ce moment-là, en 1964...
C'était la question que je voulais vous poser. C'est que, visiblement, il avait un rapport de soutien critique avec Israël. Vous l'avez très bien expliqué. Mais est-ce qu'il avait aussi un rapport de soutien critique avec le monde arabo-musulman et les Palestiniens? Et là, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, je crois.
Non. Avec les Palestiniens, non. Avec, si vous voulez, le monde arabo-musulman, et avec les positions de l'ultra-gauche par rapport au conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'au moment où il écrit « Juifs et Arabes », il y a justement ce mythe d'une merveilleuse coexistence sans aucun nuage. Mais il faut bien voir que derrière cela, c'est la position d'une extrême-gauche qui explique que puisque tout allait si bien, on n'avait pas besoin de créer Israël. Or, ce que Memmi montre, c'est que finalement, il n'y a pas de situation de minoritaire dans des pays qui ne sont pas démocratiques, qui ne soient pas des situations de soumission ou de non-droit. Mais lui prend la précaution de préciser que l'application du statut de Dhimmi a été en fonction des lieux, en fonction des époques, plus ou moins rigoureuse, parfois assez libérale. En même temps, il répond aussi à des extrémistes de droite juive qui n'arrêtent pas, à partir d'une certaine date, d'exposer cette position de Dhimmi, mais en traçant des traits d'une noirceur totale, comme si cette position avait toujours été appliquée de la manière la plus rigoureuse. Disons que Memmi, je répète, pourfend les mythes à droite, pourfend les mythes à gauche, et ceci d'autant plus qu'il maintient une correspondance, des liens intellectuels très forts, très amicaux, avec un très grand nombre d'intellectuels maghrébins, et que tout en ayant été écrit juif et arabe, vous le savez mieux que moi, il est l'un des parrains du mouvement La Paix Maintenant.
Absolument, donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré à plusieurs reprises.
Et je crois que ceci résume assez bien, si vous voulez, à la fois un courage qui ne se dément pas, une volonté de dialogue, et comme vous le disiez en introduction, une volonté d'assumer les contradictions de l'humain, mais aussi les contradictions du politique. Et on ne peut pas faire de politique, d'après lui, sans nuance et sans concession.
Annie Dyer Rosenman, vous nous avez dit qu'Albert Memmi était immergé dans trois grandes cultures, je crois. La culture judéo-arabe, la culture française, c'était sa langue d'expression, la culture du Maghreb, puisqu'il est né en Tunisie. Est-ce que ce positionnement l'a aidé à faciliter les contacts entre intellectuels israéliens et arabes, ainsi qu'entre dirigeants politiques des deux bords?
Je pense que oui. Je pense que oui. Là encore, je n'ai pas connaissance qu'il ait eu des contacts directs avec des responsables palestiniens. Mais il avait beaucoup de contacts directs et amicaux avec les grands intellectuels du monde maghrébin. Et c'est avec eux que souvent il a abordé la question israélienne, la question palestinienne. Et il m'a souvent dit d'ailleurs un peu sa déception parce que en privé, il y avait une entente très forte et une entente intellectuelle aussi sur le problème. Mais que lorsque les rencontres n'étaient plus privées et qu'elles elles devenaient publiques, il y avait une sorte de retrait de la parole qu'il constatait avec tristesse. je crois que c'est pour cela qu'il avait été si heureux des accords d'Oslo, parce que justement, les accords d'Oslo, ça voulait dire que, pensions-nous, il n'y avait plus besoin d'intermédiaires. Désormais, des adversaires n'étaient pas devenus des amis, se parlaient, reconnaissaient l'un l'autre, l'existence de l'autre, et d'une certaine manière, ouvraient le dialogue. Quel que soit, même si c'est devenu, ça pouvait être un dialogue qui n'aboutissait pas, ou mais en tout cas, je crois que, si vous le permettez, le moyen que Mémy a eu, à la fois en politique et de par rapport à ce que vous disiez sur ces trois cultures dans lesquelles il était immergé, c'est que ça a toujours été la même démarche, partir d'un vécu. Et le vécu en Tunisie, quand on habitait dans la Hara, quand on était un enfant pauvre, quand on arrivait à l'Alliance et qu'on découvrait une autre langue, un autre monde finalement, qu'en tant qu'enfant pauvre, colonisé, on était, et c'est peut-être une des blessures qu'il a avouées, on avait honte, honte de ses parents, honte de sa culture, et plus tard, devenu un intellectuel, oui, avoir... Après avoir honte d'avoir eu honte. Et je pense que le parcours de Mémy, c'est un parcours magnifique où il a réglé justement toutes ces dettes-là, où il est parti de cette condition déchirée pour devenir en quelque sorte notre mémoire d'Afrique du Nord, notre mémoire d'exilé d'une certaine manière. Et les derniers romans recoupent finalement, font rejoindre la parole du sociologue, du politique et de notre porte-mémoire. Le Pharaon, le Scorpion sont des romans sur l'exil et sur la mémoire.
Alors Annie, il nous reste une minute, Annie d'ailleurs Rosenman, est-ce que vous pouvez me répondre très très brièvement, est-ce que Albert Mémy avait suivi les printemps arabes et avait vu évoluer un peu les rapports Israël-Palestine et puis la société arabe ces dernières années, est-ce qu'il était confiant ou inquiet à l'orée
tout
de sa vie de voir ce
tout
qui se passait dans le monde arabe?
Écoutez, tout à fait. Il a suivi de très près. Non. Il était extrêmement attentif à la Tunisie, à tout le Maghreb. Comme je vous disais, il avait des rapports. Au moment des printemps arabes, il est peut-être celui qui, avec sa lucidité habituelle, a tout de suite vu les dangers possibles. Et il les a exprimés. Ceci arrivait plus ou moins de manière concomitante avec le livre qu'il a écrit, Portrait du décolonisé, où il posait, on en a parlé, où il posait une question, qu'est-ce que vous avez fait de vos indépendances? Donc il était, on dirait avec un espoir timide, que combattait sa lucidité, et malheureusement la suite a donné raison à son pessimisme.
Bien, on va terminer sur ces jolis mots, Annie Bagnon-Rosenman. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu avec profondeur à nos questions, et puis on espère vous entendre prochainement sur l'antenne de Judaïque FM. Voilà.
Merci, Eugène, merci.
On se retrouve pour un autre rendez-vous dans 15 jours. C'était Paul Ouzine-Meyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix. Kilo!